petite conférence ce soir. Et il faut fermer la porte, s'il te plaît. Merci. Et prenez place quelque part autour en partition, parce que c'est tout le temps la partition, c'est ce que je vais expliquer. Ça. Ich glaube nicht, ich glaube diese vier, was wir haben, ja. Versucht euch so zu gruppieren, dass man überall Partituren sehen kann. So. Soll ich erstmal az ötödik, ami nálad van, vagy ez még a negyedik? A, ez a négynek az egyike, vagy már öt? A négynek az egyike. Combien de partitions avez-vous en total? 4, 5? Vous avez 1, 2, 3, 4, la lien aussi? Alors on a 5, oui. Mais voilà, ça c'est mieux, oui, oui, oui. Voilà. Et on va entendre ce soir cette œuvre. On a fait déjà une démonstration avec le Quatuor Arditi. C'est ce qu'on n'avait pas la dernière fois, c'était la partition. Alors, je voulais vous montrer ce soir, parce qu'on n'a pas cette partition, on ne peut pas suivre le concert de la musique, comment ça fonctionne. Alors, c'est maintenant, c'est plutôt la technique de la pièce. Vous voyez sur la page initiale, au début, la disposition de la quatuor. Alors, BR, c'est braccia, c'est le viola. Viola, premier violon, violoncelle. Et on a changé, alors c'est pas juste dans la partition, on a changé déjà. Fermez la porte après vous, s'il vous plaît. Oui. Restez dans, auprès d'une partition, parce que c'est toujours la partition ce que j'explique. On a 5 partitions partout, vous pouvez voir. Bon. Alors, la disposition, c'est important dans un terme du théâtre, disons, parce que comme le altiste représente Wolfgang, le cello représente le père, et comme ça, les deux acteurs sont juste devant le public, et le premier et deuxième violon, comme j'ai dit la dernière fois, l'âme de Wolfgang et l'âme de Léopold sont derrière. La structure, les deux duos, c'est évident parce que toujours deux instruments créent une unité. Alors le alto et le premier violon, c'est toujours Wolfgang, et l'autre deux, c'est toujours Léopold. Regardons maintenant les intervalles, les notes qui sont écrites. Le système est très simple. Quand je monte dans l'échelle des voyelles, alors quand on a une voyelle aiguë comme le I, E, A, O, U, 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 de aigu jusqu' vers le bas, les intervalles seront plus en plus grands. C'est absolument artificiel, c'est seulement une certaine idée par la reprise quand on reprend plusieurs fois la même structure d'intervalle, on commence à comprendre, c'est-à-dire on s'habitue à cet effet que les grands intervalles représentent les voyelles plus graves. Au début, dans la première mesure, j'utilisais les quarts de ton, c'est seulement pour éviter, alors c'est contraire, c'est pas et pas pour produire un quart de ton pur, pour être très précis, absolument au contraire, pour éviter une bonne intonation. c'est-à-dire on prend quart de ton, parce que le mein, alors partout où dans la langue allemand, le mein, dein, tous ces glissando figures dans la langue, je prends souvent les quarts de ton pour éviter une intonation normale. En même temps, tous les mein, dein formes avec le glissando, ça sera joué toujours col legno flautando. C'est ça ce que j'ai travaillé la dernière fois avec les Arditi. Il faut dire qu'ils ont joué, ils ont créé cette pièce déjà 10 ans, 9 ans, au début des 90. Et cette époque-là, la pièce était tellement nouvelle, parce qu'on n'avait pas de temps pour travailler ensemble. Alors, je suis juste arrivé au général et j'ai écouté ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait cette époque-là, et c'est la connexion à la langue. Mais pour moi, c'est exactement ça ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'expliquais la dernière fois que ne faites pas la musique, ce n'est pas une pièce à jouer, c'est une pièce à parler. Dans le contexte, comme Schoenberg utilisait le Sprechgesang, j'essaie d'inventer ici le Sprechinstrument. Le Sprechinstrument, ce qui était prévu pour moi, pour une forme du théâtre, l'opéra, disons, que les instruments feront dans mon opéra, jouant aussi un rôle parlant. Alors on aura le texte parlé par les acteurs, chanter, mais aussi le texte parlé par les instruments. C'est plutôt idéal, ça ne fonctionne pas 100%, mais je ne veux pas que ça fonctionne 100%, parce que si je voudrais faire, je pourrais faire aussi avec l'ordinateur, où aujourd'hui, chaque téléphone ou chaque montre peut déjà parler. C'est-à-dire, aujourd'hui, la technique est beaucoup plus évoluée que cette époque-là. Et pour moi, c'est plutôt la diction, alors le contexte, comment on interprète un texte, ça c'est important. L'autre difficulté avec les Arditi, c'était qu'ils ne parlent pas beaucoup allemand. Alors comme le texte est allemand, tout ce qui est passé en français, c'était beaucoup, beaucoup mieux réalisé à cette époque-là. Mais le texte allemand, ils ont pris comme information, mais ils n'ont pas jamais essayé vraiment d'interpréter. « Mein allerliebster Papa ». Et dans cette figure courte, le « mein », le glissando, ça représente « mein ».« Aller », vous voyez un tritone et un quart, parce que c'est « a », « a », « e », « a », « e ». Et le petit tri au-dessus du quart, ça représente le R, aller, aller. Maintenant le lieb, c'est lieb, lieb, lieb. C'est un ton long avec le crescendo. Et un de ter sur la dernière note avec le tri, c'est de nouveau le R. Liebster et papa, papa. Le battuto, c'est comme les deux P dans le papa. Les deux caractères, vous voyez là, alto et premier violon représentent Wolfgang, après le deuxième violoncello représente Léopold, et ici, là, vous voyez la première scène, Wolfgang schreibt gehetzt, ça veut dire écrit en vitesse, en fièvre, disons. Et Léopold a reçu la lettre et lit le même texte en sa façon, un peu méfié, on dit, non? Mais méfié, alors, qu'est-ce que j'ai reçu là? Alors, qu'est-ce qu'il va m'écrire? Dans le caractère, les deux façons à interpréter, pour moi, c'est important. L'activité de Wolfgang et la relative passivité de Léopold, qui joue la même chose en piano, un peu plus longue, à peu près avec le même caractère. Et dans cette première partie, le texte, avec le rythme, prend un contact assez étroit. Alors j'essaie de rester dans le rythme du texte, parce que plus tard, plus loin, dans le deuxième, troisième mouvement, je commence de quitter la traduction directe entre le texte et la musique. La règle générale, c'est Wolfgang écrit quelque chose, papa lit la lettre, après on change la situation ici en bas de la page, les trois dernières mesures, là où vous voyez Leopold schreibt, dröhnend, Leopold écrit la lettre avec un geste, mon fils, il faut faire comme ça. Et Wolfgang, qui a reçu la lettre, et il est déjà totalement à côté, affecté, ça suffit déjà que papa dit toujours la même chose. Jusqu'à le moment, la lettre A. Le texte, c'est sur la page 6 maintenant. Le texte est en canon, parce que la situation est en canon. À partir de A, le canon est direct une après l'autre, alors un décalage d'un double croche qui nous donne cet effet d'être plus en plus proche une à l'autre. Ça, dans ce termine, va jusqu'à la lettre B. Et dans la lettre B, sur le deuxième système, vous voyez que Leopold s'arrête, Wolfgang continue à dire. Un texte qui est très spécifique, c'est très intéressant. Il dit que quand je dois composer une musique pour un instrument, ce que je déteste. Et dans ce moment, on sait que c'était le concerto pour flûte et harpe. Alors c'était un comment il a fait pour l'argent, mais il n'aimait pas. Et après cette partie-là, et quand nous arrivons sur la partie C, maintenant, tous les quatre instruments, une grande unité, représentent un seul acteur, et c'est Leopold. Alors, la pièce est partagée entre deux groupes, soit les deux acteurs, soit tous les quatre qui représentent un seul acteur, comme dans ce cas, c'est Leopold. Regardez la lettre D. Wolfgang schreibt. Maintenant, tous les quatre instruments représentent Wolfgang. Brr, führt, ça veut dire alto, et alto est le soliste. Et le texte, ce que vous voyez en bas, nun sind wir Gottlob und Dank an Ort und End. Ça, c'est parlé par Wolfgang. Nun, regardez la ligne alto, ce qui se marque avec le BR, braccia, BR. Nun, je mets cette corde vite avec le petit crescendo, je laisse résonner parce que le mot, ça finit avec le N. Alors, nun, nun. Ça, on essaye de rester dans le caractère du mot même. Deuxième mesure, fa dièse. On fait un petit crescendo vers l'accent, vers la mesure, et cet accent, ça représente la lettre D. Alors, zind, 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 d, d. Et c'est ce qui est très important pour moi, que l'altiste, quand il joue, il ne fait pas tidi, tidi, il n'ajoute pas une note, mais il est conscient que c'est rien d'autre que le zind, zind. S'il sait que c'est le D, on joue complètement différent. On joue une autre façon. Vir, le vir, ça représente deux mesures ici, parce que le grand R à la fin de le mot vir, j'ai mis un petit jeu, pop, 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 ça représente le tri, alors ça c'est le R. Mais maintenant dans une forme encore plus longue. Gott, Gott, comme souvent dans la musique allemande, le Gott s'est représenté soit avec le Ré, comme Deus, ou avec le gé, avec le sol, parce que c'est un got, gé, got. Gottlob, b, la dernière petite appoggiature, c'est le b, l'aube, und, vous voyez le und, dank, dank, an, long parce que c'est n, ort, und, end. Alors, ça vient d'analyse du texte, parce que quand on prend un texte, c'est tellement bien structuré, dans la forme des consonnes à la fin, toujours dures. Nun, sind, wir, Gott, lob, und, dank, an, ort, und, end. C'est déjà fantastique. Alors, avec un texte comme ça, on peut très bien travailler parce qu'il donne le structure lui-même. Lettre E. Si vous étiez là la dernière fois, c'était suffisamment discuté. Le texte français, on joue toujours de cette façon-là, comme on tient comme le violoncelle, l'instrument. Et c'est une petite anecdote, mais très importante, que j'ai travaillé une fois à Bologna, au théâtre à Bologna, et ce jeu, c'est ce que j'utilise ici, j'ai vu dans la pause. C'est une altiste de l'orchestre qui a fait régulièrement, il racontait les vits, qu'est-ce que c'est, hein? La plaisanterie. Et comme ça, exactement de cette façon-là, il a joué son alto et il a raconté en italien les plaisanteries comme ça, et les gens, ils ont ri parce qu'ils ont compris. C'est-à-dire, on peut vraiment évoluer la technique de jouer comme ça jusqu'à la qualité que les gens, sans expliquer les choses, ils comprennent. Et c'est ça ce que j'ai essayé ici de faire, et j'espère qu'au fur et à mesure, on arrivera plus en plus aussi pour les musiciens dire le texte français mieux en mieux. Deuxième scène, on a trois scènes en total. La deuxième scène dans laquelle Wolfgang écrit, le papa continue à parler français, on a déjà les deux éléments mêlés jusqu'à la lettre F. Dans la lettre F, nous voyons de nouveau les quatre instruments représentant Léopold. Et maintenant, on a une nouvelle technique, c'est le bogen vibrato. C'est peut-être vous connaissez bien parce que c'est dans la musique du Moyen Âge, on a utilisé souvent. J'utilise cette technique-là, le vibrato d'archer, pour caractériser le papa. Léopold, une façon qu'il dit les choses. Il tremble en même temps. C'est pour lui, c'est énormément important de dire à Wolfgang, Wolfgang, prends cette position à Versailles, tu seras l'organiste de Rudolf. Et c'est très, très important. Il faut aller au cours et il faut être musicien de cours. Et pour Wolfgang, ça lui n'intéresse pas. Il dit tout de suite que ça lui, c'est pas important. Alors, la technique de vibrato d'archer, ça représente dans ce moment une forme théâtrale. Alors, c'est déjà un caractère d'un acteur sur scène. Dans cette partie-là, le quatuor form, que tous les quatre instruments jouent le même rôle, et c'est plus en plus. Alors, le deuxième mouvement, le deuxième scène, c'est en principe, c'est fait pour Léopold, parce que après la troisième, ça devient la scène dramatique, tragique, basée sur Wolfgang. Sur la page 12, troisième scène, Wolfgang, c'est ce que j'ai expliqué déjà la dernière fois, commence à jouer une figure calligraphique. Alors, comme quelqu'un écrirait, la ligne des pizzicato, ça représente l'écriture, quand quelqu'un écrit dans cette forme-là. Et si vous connaissez les lettres de Wolfgang, on peut bien suivre, c'est magnifique, cette forme calligraphique, comme c'est ce qu'il écrit. Et nous sommes déjà loin de traduction directe d'interpréter un voyelle ou un consonne avec un seul intervalle ou avec un seul bruit. Ici, ça est devenu déjà un théâtre. Je dirais presque déjà un film. Parce que si vous pensez à Greenaway Films, par exemple, là où on voit souvent les choses écrites sur l'écran, alors il superpose une image avec une écriture, avec une forme d'écrit. Il fait avec computer, et c'est toujours très très beau. On voit la calligraphie, le même texte, ce qu'on entend. Ici, j'utilise à peu près la même technique. Les trois instruments, les deux violons et violoncelle, ils font rien d'autre qu'une certaine tension. C'est seulement un milieu théâtralique avec le sul ponticello tremolo et le sul tasto. Alors le contraste, les deux jeux, pendant ce que Wolfgang écrit son lettre. Cette lettre va, cette calligraphie, jeu calligraphique, va assez loin, jusqu'à la lettre L. Et ça c'est la scène dans laquelle il devrait dire que maman est morte, mais il n'arrive pas de dire, et il parle de différentes choses. Das Sie liebster Papa und meine liebe Schwester, que c'est vous Papa et ma chère sœur. Sont bien, ça va bien, je suis un bon Allemand, vous savez, et si je peux pas dire c'est ce que je voulais dire, mais il dit jamais que c'est ce qu'il veut dire, c'est maman. Et enfin, il arrive vers la lettre O de dire que dass meine Mutter sterben wird und sterben muss. Also il dit en façon extraordinaire, parce que puisqu'elle est déjà morte, mais il dit qu'il va mourir, elle va mourir, parce qu'elle doit mourir. Et ce parti-là, depuis la lettre O, ça devient maintenant une, je dirais presque un quatuor à cordes, parce qu'à partir d'ici, c'est plus une illustration, c'est plus une traduction. Ça commence à être une musique vraiment triste. La petite cadence au-dessous de le mot Mutter, vous voyez, c'est sur la page 15, la petite cadence. C'est par exemple, c'est aussi une petite anecdote, cette cadence pour le premier violon n'existait pas avant, j'avais un seul note. Et vous imaginez pas, mais Arditi, ils sont entrés jouer la première, c'était en Allemagne, Schleswig-Holstein Festival, et je lui dis, mais c'était comment, trois minutes avant d'entrer sur scène, je lui dis, Irving, tu pourrais faire quelques notes cadence sur le mot Mutter, c'est trop plat, ça, il faudrait faire quelque chose. Attends, je te donne quelques notes, ta-ta-ti, ta-ti, ta-ti, tu peux jouer ça? Oui, oui. Boys, mesure, je ne sais pas quelle, deuxième temps, vous m'attendez, je vais jouer cette note. Au revoir, on est parti sur scène et ça marchait tout de suite. Alors, ils ont vraiment une technique, lui il a fait comme ça, ils ont arrêté, quand il est descendu sur le fa, on a continué à jouer. Alors, c'est vraiment virtuose, mais c'était absolument nécessaire, parce que c'est un moment, parce que ce moment est tellement différent du reste de la pièce, on n'oublie pas ça. À partir d'ici, ça devient pour moi une quatuor à cordes très homogène. La lettre P, la réaction extraordinaire de Léopold, qui dit, mon Dieu, mais si elle a mort, pourquoi le samedi? Pourquoi c'est un samedi? Parce que, je ne sais pas comment dire en français, c'est abergläubisch, c'est quoi? Qu'est-ce qui laisse? Si quelqu'un pense le mauvais esprit, c'est su?
Le sentiment.
sais pas exactement, oui, oui. Alors pour lui, que la mère est morte dans un samedi, c'est un mauvais signe, c'est terrible, c'est terrible. Et c'est la seule réaction, bien sûr qu'il était touché, mais quand maintenant on voit la correspondance entre fils et père, c'est quand même une réaction assez unique. La fin, lettre R. Sie war schon im Genuss der himmlischen Freuden. Elle était déjà dans le ciel. Et ici, peut-être pour les compositeurs, c'est intéressant de montrer la lettre R. C'est alto qui joue la mélodie. Et c'est le cello qui le suit hinter dem Steg. Alors, au-dessous de pont, pardon, au-delà de chevalet, merci, chevalet. Et c'est très simple parce que au-dessous de chevalet, on a seulement quatre notes, mais comme ces quatre notes ne sont pas fixées, c'est-à-dire c'est imprévisible quelle note ça sera, ça donne une harmonie unique pour ces parties-là. Alors, on entend l'alto avec une mélodie fixée, plus toujours un élément imprévisible qui donne je dirais presque une lumière extraordinaire pour ces parties-là. À partir de Himmlischen, ça devient de plus en plus lent, jusqu'à le mot deux mesures avant lettre S, Mein lieber Sohn. Ici, la nuance, c'est la culmination, la nuance. Vous voyez ce petit plus, maximum, moins, avant la lettre S. C'est pour le Bogendruck, c'est la pression d'archer. Parce qu'il joue un glissando extrêmement lent. Alors, pendant 12 secondes, un quart monte, c'est très très lent, mais comme il commence à presser l'archer plus en plus en plus, cette distorsion dans le terme théâtralique, opératique, ça arrive à créer un très grand tension, un climax. Et comme ça, les trois instruments qui arrivent sur le sol et le do, un sol distordu. Après, c'est le violoncelle qui reprend le texte de lettre S. Et les autres, il tient le sol avec la petite interruption, avec le petit intervalle entre guillemets, ce que vous voyez, le Warum an einem Samstag. Si vous vous souvenez encore les cadences, ce que j'appelle cadence, c'est toujours une espèce. Le coda, c'est la cadence dans le terme classique, c'est le dominante tonica. Ici, c'est quatre mesures à la fin de deuxième scène. C'est sur la page 11, les deux dernières mesures. C'est encore très court, mais c'est aussi un la mineur et un sol bémol majeur, c'est la première fois. Alors, cette petite cadence représente toujours la fin d'une scène, exactement comme le finale dans les mouvements des sonates classiques. Sur la page 9, deuxième système, première, deuxième, troisième mesure, c'est exactement la même chose. Vous voyez, cette petite cadence classique, la première fois, la deuxième fois, et à la fin de la pièce, la quatrième fois. Et peut-être vous vous souvenez encore, avec le dernier do de violoncelle, avec le collegno battuto, qui ajoute en même temps que le corde do, c'est un corde vide, on ajoute un mi majeur. Et c'est à peu près ça ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je voulais vous montrer quelques mesures, mais je pense que le temps est trop court maintenant. Et si vous pouvez prendre la partition avec vous, s'il vous plaît, faites, mais j'aimerais beaucoup, c'est ce qui prend la partition, que vous mettez votre nom, que vous laissez votre nom ici, parce que la partition, ce n'est pas un cadeau, ça, il faut laisser ici, il faut reprendre. Alors, si vous voulez prendre, laissez savoir l'administration ce que c'est chez vous. Et peut-être pour le concert, c'est aussi intéressant de suivre de la partition. Si vous n'avez pas, j'espère bien que avoir une fois, même si court, ça vous aidera à écouter la pièce ce soir. Merci beaucoup.
Est-ce que ça a déjà été enregistré?
Non. J'ai un enregistrement parce que le quatuor de l'ensemble moderne a joué en 94 comme deuxième groupe après les Arditi. Arditi n'ont pas enregistré encore. Et ce concert était enregistré, mais ça n'a jamais apparu en CD, où c'était diffusé seulement parce que dans la forme de concert. C'était un joué très bien, mais toujours avec le même problème que on parlait pas suffisamment pour moi. On a joué la musique, c'est, je voulais pas ça. Alors la pièce commence d'une façon parlant. C'est à peu près le même problème comme dans le Pierrot Lunaire. Si vous savez, dans le Pierrot Lunaire, on peut parler, on peut chanter, mais la meilleure version, c'est entre les deux. On a plusieurs enregistrements de Boulez même, où lui, il a essayé aussi les différentes versions. C'est un enregistrement, c'est plus parler, l'autre, c'est plus chanter. Mais je sais que c'est très difficile de trouver un bon moyen pour un Sprechgesang. Et ici, c'est exactement le même problème. C'est ce que j'ai travaillé hier, avant-hier, avec les Arditi, c'était toujours dans ce sens-là, que mettez le collegno flautando, mais ça ne sonne pas, mais c'est ça, si, ça sonne, c'est meine, c'est non meine, mein, mein, quand je parle, c'est un collegno flautando, il ne faut pas avoir peur de faire, d'imiter le texte parlé, oui.
So even if that the music is written through text, but don't you think that now, after writing the piece, the gestures can work without the text, just musically?
C'était la première fois que j'écris une pièce avec cette technique, et aujourd'hui, je trouve que c'est trop compliqué. D'un côté, c'est extrêmement précis, c'est trop précis. C'était une erreur, entre guillemets, d'un jeune compositeur, entre guillemets, qui veut être très précis, et on cherche chaque élément et on précise jusqu'à le maximum tout petit détail, qui fait tout simplement difficile de l'interprétation. Alors même le meilleur groupe du monde, comme Arditi, qui peut jouer vraiment n'importe quoi, on peut vraiment écrire les choses plus compliquées, plus difficiles, même pour eux, c'est encore à un certain niveau, c'est difficile. Pour eux, je pense que quand je travaille avec eux, il ne faudrait rien changer, ils sont capables de jouer exactement comme c'est écrit. Mais pour distribuer la pièce et donner pour n'importe quelle quatuor, je pense que c'est un problème. Alors la pièce est devenue trop précise. Aujourd'hui, je ne ferai pas comme ça. Alors je sais maintenant, je peux trouver déjà un bon technique milieu qui en même temps représente l'idée, c'est ce que je veux, mais reste sur une base plus réaliste.
Juste une question, si on a encore le temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation des tempi?
Non, dans cette pièce, c'est pas organisé, c'est tout simplement, et je pense pour le théâtre, il faut faire attention avec le tempi, parce que le théâtre, comme la danse, on a un certain tempo qui est possible et un autre tempo pas possible. Alors je ne penserai pas trop théorique ou pas trop systématique.
Parce qu'il y a beaucoup de changements de tempi à chaque mesure.
Oui,
comment vous les avez déterminés, parce que de quelle façon?
Parce que j'essaie de dire le texte et quand je sens que bon, ça c'est le tempo, c'est ce que je veux entendre, je cherche sur le métronome, c'était quel tempo. Alors, les tempi dans cette pièce, mais sur une pièce concertante, disons, musique de chambre ou d'autres choses, là, c'est pas la même chose. Alors là, il faut vraiment trouver dans la séquence des vents, on a beaucoup de rapports très précis entre les tempi ou les valeurs. La prochaine fois, quand on va faire la conférence sur la séquence des vents, mais ici, comme un théâtre, là, c'est toujours seulement... seulement la possibilité dans ce moment. C'est la seule possibilité. Qui est assez variable aussi, parce que c'est ce qui est génial sur scène, que ça se bouge toujours. Alors, pas seulement chaque représentation un peu différent, mais aussi avec un acteur, un tempo est complètement différent qu'avec l'autre. Et c'est cet avantage, c'est positif.
Can you tell us about the accent on the first rest?
C'est peut-être un gag arditi. Parce que si vous regardez peut-être aussi ce soir, quand c'est arditi qui est le premier violon, ça commence avec comme ça. Et on sait que, bon, ça c'est le 1. Et ici, c'est, quand ils ont joué, c'est moins évident parce que ce n'est pas lui qui est le premier violon, qui posait pas mal de problèmes dans le groupe aussi parce que le quatuor est habitué de jouer avec lui. Alors, c'est toujours lui qui donnait tous les signes. Et dans ce cas, ça fonctionne merveilleusement parce que le premier violon est aussi actif comme arditi même. Mais, disons, pour le travail, pour les quatre, ça pose au premier moment un très grand problème que le leader, le chef, ce n'est pas le premier violon. Alors, c'était une décision très difficile pour moi, parce que je savais que ça va poser le problème, pas seulement technique, mais aussi psychologique dans le groupe. Et ça, c'est un problème. Je vous donne le microphone parce que pour la traduction c'est important. Azaz úrod hátulleg észlelem.
Et par exemple au début, en fait le rythme vous marquez, c'est parce que en fait violon et alto ils sont homorythmiques, c'est tout ça.
Et quelle est la question?
C'est-à-dire, en fait, vous détaillez le rythme, la première partie. Ensuite,
oui.
Par exemple, la partie où vous avez raison et tout ça, vous ne détaillez pas le rythme, c'est-à-dire juste la ligne, quoi, en cours.
Ah oui.
C'est-à-dire que, bon, ce que je me suis dit, c'est que peut-être... Le violon et alto, ils jouent ensemble, c'est peut-être pour ça que vous détaillez
Non, c'est une fois, parce que la plupart de le texte est en allemand. Et c'était nécessaire de fixer le tempo et le rythme pour le texte allemand. Pour les textes français, comme c'est une, je dirais presque une espèce de caricature, comme j'utilise, et le texte n'est pas. La musique sur ce texte n'est pas construite, c'était tout simplement un geste. Alors j'imaginais que quelqu'un de groupe qui parle français, il va dire une fois, comme nous avons fait la dernière fois avec monsieur, et on écoute une fois le texte, on essaie d'imiter, et dans ce moment, c'est exactement le même jeu, c'est ce que j'ai dit avec l'altiste de Bologna, qui racontait les plaisanteries dans cette façon-là. Alors, dans ce moment, ce n'est pas nécessaire, même si c'est bien que c'est l'autre côté, c'est le côté quasi improvisatif. Merci.
Once you talked about that you couldn't write pieces in languages that are too close to you, which are Hungarian, German, or French. But you can write pieces on languages which are a bit far away from you, but this is in French and German.
Bon, c'était le début. C'était en 92 quand j'ai écrit cette pièce. C'est la première recherche pour moi dans cette direction. Mon opéra Les Trois Sœurs était créé en 98 et j'ai commencé vraiment à écrire en 96. Alors deux ans avant la première. Alors entre l'opéra et cette pièce, ça fait 4 ans de différence. Et depuis l'expérience avec le texte russe, j'ai découvert que pour moi, c'est idéal si je ne comprends pas 100% le texte, parce que ça m'aide dans la fantaisie d'écouter d'une façon vraiment plutôt musicale, entre guillemets, disons. Ici, ce n'est pas le cas, parce que j'ai trouvé le texte dans ces formes-là, allemand et français, en original, et même cette façon de 92, ça, c'est déjà la deuxième fois quand j'ai travaillé sur ce texte-là. La première fois, c'était en 74, alors encore 20 ans plus tôt, et cette pièce s'appelait cette époque-là Léopold et Wolfgang, Léopold und Wolfgang. C'était pour je pense un violon qui jouait avec lui-même sur banc magnétique. J'en suis pas sûr, je me souviens pas. Mais en tout cas, c'était deux instruments sur le même texte. Mais comme la version s'était créée même à Paris, au début de Centre Pompidou, on avait un spectacle, presque je dirais, organisé par Globocar encore au début. Et cette pièce, le Léopold et Wolfgang, était avec plusieurs écrans télévisés, je pense 9, alors 3 sur 3, avec la même image. Et l'image, c'était enregistré sur vidéo. L'image représentait un archer dans le mouvement. Ce qui m'est intéressé dans ce moment, que, par exemple, si on enregistre l'archer sur l'écran en diagonale, quand vous avez les 9 appareils un sur l'autre, ça donne un long archer, parce que ça bouge comme ça. Et quand c'est horizontal, dans ce moment, vous avez les lignes parallèles. Alors c'était un essai dans les années 70, un jeu visuel musical. Mais je n'aimais pas trop ça je trouvais ennuyant. C'était bien une fois, mais après ce n'était pas intéressant. Et quand j'ai reçu cette commande pour Arditi, pour 92, j'ai repris le même texte, mais complètement indépendamment, j'ai recommencé à travailler là-dessus. Oui, merci.
Est-ce que vous pourriez parler un petit peu au sujet de l'organisation des auteurs dans la pièce?
L'organisation des?
Des auteurs.
Des auteurs, oui. En principe, ce ne sont que les intervalles. Et les intervalles, c'est toujours à 4 notes avec les deux instruments. C'est bien la difficulté pour les musiciens aussi, parce qu'il faut jouer toujours en double note. Je me laisse un petit jeu, par exemple, si c'est un A qui tombe au milieu. Si c'est un tritone ou un quinte ou un quart, j'ai laissé le petit jeu à décider dans le moment donné et qu'est-ce que je ferai. Parce que ça dépend de qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il vient après. Aussi, la distance entre les deux instruments, ça dépend d'écouter cet intervalle. Et si ça sonne bien, dans certains moments, il faut que ça devienne plus dramatique. Alors, je cherche plutôt une constellation des 4 notes. dans lequel l'accord devient dramatique, ou si je veux un peu lâcher, c'est contraire. Alors je prends par exemple les deux quintes, et dans ce moment c'est beaucoup moins dramatique. Alors l'organisation des sons sont pas les auteurs, mais les intervalles même. Et comme j'étais très occupé avec le phénomène intervalle depuis début 70, j'ai une pièce qui s'appelle Intervalle intérieur. J'avais une technique très spéciale électronique dans laquelle j'ai cherché un circuit électronique pour live électronique dans lequel l'intervalle même contrôle tous les autres éléments musicaux. Alors, deux notes jouées sur un orgue produisent un certain voltage, électricité. Ça serait transformé, pitch to voltage converter, pour le contrôle électricité. Et ce contrôle électricité fait bouger un filtre qui donne une certaine mélodie, disons. Et cette mélodie, rien d'autre que l'intervalle même. Alors, c'est le battement de cet intervalle qui se présente dans une forme mélodique, où si on applique le contrôle sur un amplificateur, ce mouvement-là, ça représente un fort piano, forte piano, forte piano. Alors on entend wong, 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 wong. On entend un rythme, mais ce rythme, c'est rien d'autre que l'intervalle même. Et j'ai travaillé à peu près 2 ans sur ce système, jusqu'à ça fonctionner d'une façon tellement précise qu'il ne fallait jamais toucher un bouton sur les appareils, seulement jouer les différents intervalles, et ça produit la musique même. Alors, l'intervalle comme élément de base, depuis là, c'était très important, dans la séquence des vents, énormément important, c'est rien d'autre que les intervalles. Et ici, dans cette pièce, encore une autre forme d'utilisation pour les intervalles.
Et pour vous, chaque intervalle a sa propre caractère dramatique ou timbral ou quoi?
Excusez-moi, j'ai pas compris.
Pour vous, chaque intervalle a sa propre personnage dramatique?
Oui, c'est vrai, oui. Et pratiquement, dans les trois sœurs, je reste toujours d'utiliser cette technique d'intervalle. Le seul changement depuis des années que, dans ce moment, j'utilise beaucoup plus d'éléments d'intervalle. Alors, ici, c'est encore 2 intervalles en même temps. Et, au début de 70, c'était souvent un seul intervalle parce que c'était le maximum pour moi, ce que je pouvais contrôler. Et aujourd'hui, c'est déjà une très grande complexité des intervalles. Et comme ça, quand je compose toute une série, une grande série des éléments verticaux en intervalles, et quand je commence à réduire ça et j'arrive à un seul intervalle, on a tout de suite une situation dramatique dans le terme d'opéra. C'est ça ce qui passe au début des trois sœurs. Les trois sœurs aussi, c'est très fort construit sur les intervalles. Je pense qu'il faut arrêter maintenant. Merci beaucoup.